monumentale erreur.
Stick around.
May I see your invitation, please?
Sure. Here's my invitation.
Comment t'as deviné qu'il y avait quelqu'un dans le placard?
Il y a toujours quelqu'un dans le placard.
What happened to Buzz?
Ah, he had to split.
Être ou ne pas être. Ne pas être.
Et voilà. J'ai l'impression qu'ils le font exprès.
C'est un piège.
C'est un piège, tout comme ce film. Pour ce Tammy Schwartzy, le dernier de la saison. Sauf si on se dit, tiens, en plein milieu de l'été, si on en faisait encore un.
Sauf si les vacances sont annulées.
Ouais, surtout que si le meilleur est à venir, donc.
Ah ben, le meilleur.
Le meilleur du pire, comme dirait FFF.
C'est ça, exactement. Parce que là... On va souffrir pendant encore de longues semaines, longs épisodes. Et donc, pour cet épisode, on a vu, alors qu'il faisait très chaud, en tout cas, chez moi, il faisait très chaud, La course aux jouets, un film de Noël, avec notre ami Schwartzy. Et voilà, vous voyez nos mines déconfites. C'est normal. J'irai regarder Junior plutôt, hein, la prochaine fois.
Oui. Ouais.
Non, mais ce qui est bien, c'est que quand on aura fini ce podcast, peut-être un jour, on pourra dire que vraiment on a donné de notre personne. Pourquoi, je ne sais pas, mais on a donné.
Non, par contre, je pense qu'on risque de questionner notre appréciation, notre amour de l'acteur. Mais...
Oh, c'est pas déjà fait ça?
Ouais, mais. Attends,
c'est pas. C'est vrai fini. Que là, on attaque la pente raide, on va dire. C'est que...
La pente émie même. La pente émie. Oui, c'est la pente raide. Donc, pour m'accompagner encore ce soir, cette fois-ci, les Expendables du podcast.
Ils sont de retour.
Ils sont de retour et ils sont énervés. Ils sont pas contents.
Ah non, on n'est pas contents.
Non.
Yeah. Bravo. Donc...
En même temps, c'est marrant de voir des nanars aussi, quoi. C'est un peu pour ça qu'on a fait le truc à la base, parce que...
C'était pour notre amour de voir un faux ours se faire tabasser c'est à ça. La base. Donc...
Oui, c'est vrai. Ouais, deux fois.
Non, mais il y a eu un chameau, et puis maintenant, il y a encore d'autres animaux maltraités.
Et oui, et pourtant.
Quel est le prochain?
On devrait faire un bingo avec le choix s'il frappe un animal.
Une chauve-souris?
Ah ouais.
C'est le film suivant, si tu vas par là.
Ouais.
Bah c'est ça, c'est pour ça, c'est une chauve-souris.
Bien joué.
Voilà. Donc il y a Elodie, il y a Florian, aussi joué club. Hein.
Bonsoir Garcimore, bonsoir à tous.
Le truc, c'est que j'ai en tête le petit générique de Jouer Club. Oula.
Et oui.
Apparemment, il y avait un Tokepi aussi au passage.
Tout à fait, c'est le Kalash, mais version piano.
Ah, le Kalash façon piano.
Oh, non, mais il y a du talent.
C'était Maria Kalash, quoi.
Exactement. un grand et opéra.
Marie-Calage. Ah là là. Bon.
Croisons-les.
Et Olivier, là, il se demande ce qu'il fait là, mais c'est habituel maintenant.
Ouais. Je réfléchis, puis je vous redis plus tard.
Je reviens vers vous à Zap.
Je tiens à souligner qu'on est, dans cet état, mais le film que l'on aborde ce soir ne fait que 90 minutes.
Donc imagine. La version longue, imagine... plus, parce qu'il y a une version courte.
C'est ça. Et moi, je sais pas si je me suis tapé la version courte ou la version longue, tu vois. Merci de me faire douter.
Est-ce que tu as une fin
Moi, j'ai la même que toi, Florian, donc.
Et pour cause
qui zoome sur sa femme.
Oui.
Ouais, c'est bon, t'as la version longue.
Okay. Ah, bah ouais, ça aurait été dommage de louper ça.
Non, mais je crois que la version courte, elle se trouve plus, hein, parce que la version longue est sortie directement en VHS. La version courte, c'est que celle qui est sortie au début au cinéma, donc.
Donc il fallait absolument rallonger la course aux jouets pour le marché vidéo.
Oui parce que bon... et de beaucoup hein, mais j'y reviendrai après.
Pour la postérité, 93 minutes et on est dans cet état-là quoi. Donc je vous laisse imaginer.
Ouais. Et oui, dans cet état-là, par un film qui date, qui a maintenant 25 ans, voilà, hein, 25 ans, donc en 1996, la 20th Century Fox, c'est pour ça que bah, j'ai pu le voir sur Disney+, mais pas en France. Allez savoir pourquoi. Bon, bref. Avec Arnold Schwarzenegger, bien sûr, Sinbad. Alors, je ne dis pas bien sûr, parce que bon, c'est Sinbad.
C'est le roi lion.
Non, pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film, ce n'est pas le roi lion. Mais...
non, non. Et puis, il y a Bad dedans. Par contre, moi, j'ai retenu que dans les acteurs principaux, enfin plus ou moins principaux, en tout cas dans le cast, il y avait des comédiens qui, je pense que c'était quasiment leur dernier film. Et c'est un peu triste, genre Phil Hartman, James Belushi.
Ouais, c'est quand même tristoun.
Bon, je pense pas que James Belushi, c'est un peu plus tard, mais Phil Hartman, je pense qu'on n'est pas très très loin de son décès. Ouais, c'est ça, c'était deux ans plus tard, il était assassiné. Donc,
t'en as qui part sur un shader et puis t'en as qui part sur la course aux jouets.
Ah ouais, je vais vérifier s'il a eu d'autres choses d'abord. C'est l'avant-dernier film.
Oui, je tiens à préciser que James Belushi n'est toujours pas mort, c'est Jim Belushi qui est mort.
Oui, James, oui, pour là. Moi je l'ai tué avant.
C'est ça.
Ce film l'a tué.
Non, théoriquement, je pense que c'est Twin Peaks The Return qui l'a tué, puisqu'il joue dedans, en fait, dans deux épisodes assez mémorables.
Bref, en tout cas, Phil Hartman, qui est un grand comédien, un acteur très, 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 très drôle, qui se retrouve dans son avant-dernier rôle sur grand écran, dans une parodie de Flanders.
C'est exactement ce que j'ai noté.
Ah oui, mais c'est Flanders coquin.
On va dire c'est ça, je pense que c'est Flanders adultère en fait.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais.
C'est Flanders version quand il est dans sa combinaison de ski.
C'est Flanders plus réaliste.
Avec son popotin. Je vois la scène en plus. C'est affreux. C'est affreux. Donc, de quoi ça parle ce film qui a été produit par 1492, hein, donc la société de Chris Columbus.
Oui.
À qui on doit autant de bons films que de mauvais, en fait. Le gars, quand il produit, c'est...
Tu es très bon public, hein. J'aurais vraiment accentué le mauvais sur le bon, hein, avec ses productions.
C'est vrai qu'au total, y a plus de mauvais que de bons, effectivement, dans la production. Mais on retiendra les Maman, j'ai raté l'avion, ce sera déjà pas mal. Voilà. Hein, niveau film de Noël, en tout cas. Bref, c'est lui qui produit, c'est Brian Levant qui était à la réalisation.
Et il aurait mieux fait de rester couché.
Ouais, elle est pas mal non plus celle-là. D'autant plus que bon, c'est un gars qui s'est montré sur de très 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 beaux jours, genre La famille Pierre à feu.
Qu'il réalise ensuite ou qu'il réalise avant, je me souviens pas.
Avant,
je crois qu'il
juste,
a...
avant. Juste avant. Juste avant. Ouais. Mais encore avant, il y a eu Beethoven. Donc quand même, bon, ça reste du familial et discutable si vous voulez, mais bon.
Ouais, mais il sait le faire, quoi.
Il sait le faire, il a fait des épisodes de Marié deux enfants, il a fait Junior le Terrible 2, que j'aime vraiment beaucoup, Chien des Neiges, alors là on commence à se dire, oui, qu'est-ce qui se passe? Et on a aussi du Scooby-Doo, on a Kung Fu Nani, alors juste le titre j'ai envie de voir, mais... Mais alors, par contre, moi, un truc qui... Si j'insiste là-dessus sur ce qu'il a fait, parce que, bon, globalement, c'est pas non plus le gars le plus connu du monde, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais vu un pilote qui n'avait pas été vendu avec un flic qui devient un chien.
Oui.
C'est le scénariste de Pushinsky.
Non, mais il cherche aussi. Hein.
Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais là, « Ah, c'est à cause de lui !»
Tout est lié.
Ça m'étonne pas du tout. Et donc, la course aux jouets, ça parle de la veille de Noël. Donc, où t'as le bon père de famille. Enfin, bon père, non. C'est un père de famille qui essaye d'être pas trop mal, mais c'est un homme d'affaires aussi. Donc, il y a le boulot qui prend beaucoup de place. Et
il est surmené. Surmené, Frédéric.
Il est plus que surmené. C'est à tel point que sa femme est un de ses meilleurs clients. Hein, donc, il doit trouver pour son fils un Turboman, qui est un nouveau jouet d'une série très proche des Bioman, Power Rangers et ce genre de choses, parce que son fils l'a commandé au Père Noël, mais lui, il a oublié de l'acheter. Et la veille de Noël, le cadeau le plus recherché, eh ben, c'est galère. C'est galère, et c'est sur ça que tient vraiment le film, et c'est tout. Absolument tout, parce que globalement, il n'y a rien d'autre autour.
Bah non, c'est la course aux jouets.
C'est la course aux jouets, en tout cas on n'est pas...
Et le personnage de Phil Hartman essaie de niquer la femme de Arnold Schwarzenegger en intrigue secondaire en fait, donc c'est à peu près
tout. Et pas que elle d'ailleurs, tout le quartier.
Plus tout le quartier, c'est ça. Mais je pense que je pense en fait que c'est réciproque dans le cas du quartier en fait, mais pas réciproque dans le cas de la femme de Schwarzy.
Ouais, mais parce que c'est les autres, elles font pas les meilleurs cookies alors...
Oui, les meilleurs cookies, puis il y a d'autres choses très, très douteuses, très limite. Le mec, c'est un... Et on va dire que pour rester sage, il est cringe. Mm. Mais ouais. En fait, non, c'est un gars qui mériterait une ordonnance restrictive. Voilà, hein, au bout d'un moment quand même. Et c'est vrai que c'est... Alors, intrigue secondaire. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça intrigue secondaire?
Oui, mais ça, en fait, c'est quelque chose qui meuble, sinon ça durerait qu'une heure, en fait.
Ouais, c'est ça. Il est là pour meubler. C'est pas une intrigue secondaire, c'est du meuble, c'est de l'IKEA.
Enfin, il souhaite meubler la femme de Schwarzy, hein, mais c'est...
Ah, bah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Il souhaite donc, c'est monter.
C'est ça, et c'est une intrigue plutôt commode. Hein.
Oula, démonter. Vous voyez à quel point le film nous a fait souffrir.
Après ça, on ne sera plus jamais les mêmes.
Dites-vous qu'on est content que...
On est au bord de la crise de nerfs.
Que la suite qui a eu lieu 17 ans plus tard, on est bien content qu'il n'y ait pas
Schwarzy dedans.
Oh, attendez, je vais en parler.
C'est quand même un acteur de renom qui est dedans. Je te laisserai en parler, effectivement. Bref. En tout cas, voilà, c'est... Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus, moi?
Une comédie familiale.
Ouais.
Il faut pas avoir plus de 2 ans.
Pour ceux qui regardent Netflix, vous savez, le catcheur qui s'appelle Big Show, ben, il est dedans, mais il est bien déguisé. Puis voilà, c'est tout. Si. Moi j'aime bien parce que c'est un petit acteur qu'on voit un peu partout aussi, qui a fait pas mal de choses pour Mad et pas mal de choses pour Mad TV. C'est Martin Mull. Mais dans un rôle. tu sens qu'en fait il a juste voulu faire plaisir à un pote. Et puis c'est surtout Martin Mull avec des cheveux longs. Et ça c'est rare. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que je vais te donner la parole directement à Elodie parce que... Aïe.
Ouais, et ben... Alors, c'est le moment où vous sortez votre calculatrice.
Non, j'ai une seule question, en fait, dans ce cas-là, c'est pourquoi, en fait. Je pense que ce podcast, en fait, cherche à résoudre le pourquoi du film.
D'accord. Pourquoi ce film existe. Je vais peut-être avoir quelques réponses. Mais niveau calculatrice, vous allez voir, le calcul est assez simple. Le film a eu un budget d'à peu près 60 millions de dollars, ce qui en soi n'est pas non plus énorme, mais bon, c'est une comédie familiale, c'est pas les films d'action qu'on a eu et qui coûtaient 3 reins et 2 bras. Le problème, c'est que, voilà, les recettes aux US, c'est 60 millions de dollars.
Ah.
Voilà. Niveau mondial, bon, 129 millions cumulés, ça reste correct. Mais alors, sur ces 60 millions de dollars de budget, le cachet de Schwarzy, c'était 20 millions. Voilà, donc une fois que vous savez pas la soustraction...
Ah oui.
Ça peut aussi expliquer le...
Les costumes.
Le manque. C'est ça. Et voilà.
20 millions.
Ouais. Alors, rapporté, hein, il a jamais officialisé le truc, mais selon des sources proches...
Je pense qu'il a honte.
Pour acheter son âne, il fallait bien qu'il gagne sa vie. Hein. Enfin,
âne ou son âme?
Son âne. Hein. Pas le nain au fromage, hein, l'âne, l'animal.
Ah, c'est bon, c'est une âne.
Ouais, j'aurais préféré ça.
Bon, ben, on va faire un podcast sur les nanes. Bon.
C'est intéressant parce qu'en fait, Schwarzy, en fait, ça faisait partie des acteurs. Enfin, on ne savait pas le star system en fait dans les années 90, mais dans les années 90, pour déterminer en fait quels acteurs étaient au firmament de Hollywood, il y avait donc la liste des acteurs qui touchaient 20 millions de dollars par film. Et la grande progression, c'est quand Julia Roberts a fini par toucher 20 millions. Mais en fait, les Schwarzenegger, Stallone, etc., leur truc en fait pour au niveau des médias pour se maintenir et tout, c'est les médias disaient ah voilà, lui il touche 20 millions de dollars par film quoi.
Et Elodie, peut-être je me trompe, mais depuis le début, j'ai l'impression, enfin depuis plusieurs films maintenant, même les films genre Le Contrat et compagnie, qui étaient relativement rentables, les derniers films qui avaient été faits étaient très très rentables. On a l'impression que c'est la première fois depuis très longtemps qu'un film de Schwarzenegger est pas tout à fait rentable quand même.
Ouais, on en a eu quelques-uns avant. J'ai plus ma liste sur les yeux, mais c'était quoi qui avait fait un bide aussi à sa sortie et qui était devenu plutôt culte après? Je sais plus. C'était Un flic à la maternelle qui avait pas marché à la sortie?
Ouais, je pense que celui-là était pas au top top. Hein.
Ouais, mais il était au moins rentabilisé quand même. Là, si on se contentait de la sortie US. Je pense qu'ils auraient eu des petits soucis. Mais tout ça s'explique. Parce que, comme tu disais, Florian, pourquoi avoir chié ce truc? Et ben en fait, c'est parce que c'est parti d'une histoire plutôt vraie. Ils se sont inspirés de la frénésie dans les années 80 pour les poupées Cabbage Patch. Et ces espèces de trucs horribles, je comprends pas que les enfants voulaient ça, mais enfin bon, quand on est enfant, on a des goûts bizarres des fois.
Ouais, elles sont bizarres, ces poupées, elles font peur.
Ouais, et donc tout le monde voulait ce jouet pour Noël, donc voilà, c'est tout ce qui a inspiré le scénario, et ça tombait bien parce que quand le film est sorti en 96, ça s'est reproduit avec Elmo et le fameux jouet Tickle Me Elmo, qui, de mon point de vue, n'aurait jamais dû sortir. C'est une horreur aussi, ce jouet, mais enfin bon...
Donc ça consiste en fait à chatouiller Elmo, en fait.
Oui.
Voilà, et si après il est content, c'est très, très bizarre.
Il y a des gens qui sont contents quand on les chatouille.
Oui. Non, mais je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de ce jeu, mais c'est le truc le plus malaisant.
Non, des vidéos non. J'ai la sœur d'un pote qui l'a eu quand elle était petite.
Et elle va bien?
Je sais pas, j'ai plus vu depuis longtemps, mais globalement, le Elmo chatouille-moi, parce que c'était ça le nom en français, c'était flippant. Mais bon, après, il y a eu les Furby.
Moi j'aimais bien les Furby, et oui, c'était flippant.
Ouais, mais le Furby tu pouvais pas le chatouiller. Le Furby te réveillait la nuit.
Si tu lui chatouillais le ventre, le Furby.
Ouais, enfin tu pouvais le retourner et il disait oh là, je vais vomir, je sais plus quoi là. Donc,
ouais, c'était génial.
C'était génial. Ouais.
Et voilà, donc le scénario qui tient sur un post-it, effectivement, vient juste de cette histoire. Mais, est-ce que tout ceci ne serait-il pas qu'un plagiat? Puisqu'en mars 2001, un jury du tribunal de Birmingham dans le Michigan a statué que la 20th Century Fox avait volé l'idée du scénario de Jingle All the Way au professeur de biologie du lycée de Détroit, Brian Webster. Le studio a été condamné à payer 19 millions de dollars, qui a été réduit plus tard à 1,5 million de dollars, parce que Webster a soumis le script alors nommé Could This Be Christmas au studio en 1994 et n'a jamais reçu de paiement ni a été crédité, malgré que le film ait rapporté un petit peu de sous quand même dans le monde. Sauf que ensuite la 20th a fait appel et le verdict a été infirmé puisque en fait le script de Webster a été soumis après que le studio ait déjà acheté un projet de ce qui allait devenir la course aux jouets.
Ouais, donc c'est comme par hasard, c'est une coïncidence que...
Mais en même temps, le scénario est tellement vague et ne tient sur rien que forcément les coïncidences sont plus faciles, quoi.
Bah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est je dois aller chercher un jouet la veille de Noël, point.
Mais voilà.
Oui, bah, n'importe qui aurait pu l'écrire, ce truc-là.
Comme par exemple un professeur de biologie dans un lycée, pour qui c'est pas du tout le métier d'écrire des scripts. Et voilà, ouais. Donc finalement...
Mais il s'en sort pas trop mal quand même, finalement. C'est vrai qu'il a demandé 19 millions, bon il s'en sort avec
1 million. Non, il a rien eu du coup. Il a rien eu parce que la 20th a fait appel et ils ont annulé le jugement.
En fait, ils ont prouvé qu'en fait, ils ne s'étaient pas inspirés de leur script, mais ils avaient déjà acheté chronologiquement un pitch en fait sur une idée similaire en fait.
C'est quasiment impossible de prouver que t'es qu'un gros studio hollywoodien t'a piqué ton film. Donc c'est...
Ouais, de toute façon,
les producteurs, oui. Enfin, ça va. Au niveau des producteurs, il y a toujours des producteurs qui se font attaquer pour plagiat. Après, les studios, c'est un tout petit peu plus, problématique. Ouais. Je suis d'accord avec toi.
Moi, dans la boîte où je travaille, on avait essayé, parce qu'on avait fait un court-métrage qui ressemblait étrangement à Saw, mais qui était sorti bien avant, et qui, de notoriété publique, était tiré de ce court-métrage. Et il y a tous les avocats aux États-Unis nous disaient que c'était quasiment impossible de porter plainte, alors que l'inspiration était quasiment ouverte, quoi. Donc là, ouais. J'imagine qu'avec un scénario aussi léger...
Une armée d'avocats bien...
En fait, aux États-Unis, si les avocats sont sûrs de perdre, ils prennent pas ton cas. Donc en fait, on a fait plusieurs avocats et plusieurs firmes et tout, et ils nous ont tous dit non, on s'attaque pas à ça, ça va être trop compliqué, quasiment sûr de perdre. Donc voilà.
Et la deuxième question que soulève ce film, c'est que fout Schwarzy dedans ? Et bien, c'est très simple, à la base, il ne devait pas y être. C'est un malentendu, on va dire.
Dans le film, quoi. Il est arrivé sur sur le chariot, puis... je vais faire le film, alors.
Ben, c'est ça. Parce qu'en fait, à la base, il devait être dans un remake de La Planète des Singes. C'est un truc sur lequel il travaillait depuis plusieurs années, mais le projet n'a jamais eu... Le truc n'a jamais vu le jour. Donc, du coup, il avait un créneau de libre... Donc là, toi, tu y es, tu lui as dit, mets cette écharpe, mets ce bonnet et en avant Guingamp.
Moi, je crois plus au truc que vient de dire Olivier. C'est-à-dire que, il devait aller au studio 9B, il a été au 9A. Et...
Non, mais c'est surtout que s'il avait été dans La Planète des Singes, il aurait encore frappé des singes.
Non, il aurait peut-être été un singe.
Non, je pense qu'il aurait eu le rôle du mec qui se retrouve.
Ouais, moi, à mon avis.
Il aurait eu le rôle de Dr. Zaius. Maintenant, vous imaginez tous Schwarzenegger avec la tête de Dr. Zaius.
Oui. Maintenant, j'ai envie de voir ce film qui n'a jamais vu.
Avec Dr. Zaius qui fait « Gâté de Tocharpa
bon, ». I'll be back. Je pense qu'il va falloir lui mettre un script. Je crois qu'il y a une convention maintenant qui interdit de faire des remakes de La Planète des Singes, c'est plus possible.
Surtout avec Schwarzenegger.
Détrompe-toi, il y en a un qui est en pré-production en ce moment même.
Bah, c'est ça que j'allais dire, c'est que après celui de Tim Burton, il y en a encore un, quoi.
Ouais, il y en a eu trois depuis qui sont très bons, on est d'accord, et il y en a un qui est en pré-production, qui est par le réalisateur de The Maze Runner du Labyrinthe, qui s'appelle Wes Ball.
Ils n'ont pas eu Bébol parce que.
J'ai eu peur.
On a pensé la même chose.
Non, mais des fois, je dis pas de conneries. Hein. Des fois, c'est des vrais faits. Hein. Voilà. Ouais, non, un vrai réalisateur.
Non, je pensais sur. Tu vois, avec Bol, j'ai pensé à Ball.
On a les mêmes références pourries.
Mais lui, il a arrêté le cinéma depuis qu'il a fait son match de boxe contre tous ceux qui disaient qu'il était mauvais, non ?
Oui, je crois qu'il a rien fait depuis.
Il a pas arrêté parce que plus personne voulait le financer, en fait, parce qu'en général, c'est ce qui est plus plausible, en fait.
Non, parce qu'il arrivait toujours à se financer lui-même, lui.
Ouais. Je sais pas comment, mais il y arrivait toujours. Et je crois qu'à un moment donné, il a dit « Ouais, c'est bon, j'arrête. » Alors que, il avait défié je sais pas combien de critiques et de blogueurs sur un ring. Bon, il les avait bien mis une bonne raclée. Je suis un petit coup... On nous prend en faute d'eux.
Super paradis sont parmi nous.
Ils sont même pas discrets en plus. Enfin, oui, donc bref, continue. Donc, c'était pas prévu, quoi.
Ouais, et pas prévu non plus, c'est qu'à la base, Chris Columbus voulait que ce soit Joe Pesci qui joue Myron. Mais en fait, ils ont dit non, il est trop petit à côté de Schwarzy. Même si Schwarzy, il jouait à côté de Danny DeVito avant.
Ben ouais. Et franchement, avec Joe Pesci, je sais pas si ça aurait sauvé le film, mais
ça aurait été mieux quand même.
Ouais.
Parce que Sinbad.
Sinbad.
Pour son nom, il y a Bad. Hein.
Faut qu'il retourne.
Attendez, parce
faut qu'il retourne faire le marin, quoi. Parce que...
On y arrive.
Plutôt que faire le marrant.
C'est l'agent de Schwarzy qui a suggéré Sinbad. Mais au début, les producteurs, ils n'en voulaient pas. Ils disaient qu'en fait, lui, il n'était pas vraiment adapté au rôle d'un méchant et que ça pourrait nuire à sa réputation parce que humoriste familial, tout ça, tout ça. Même si Sinbad lui-même, bah, il voulait jouer dans le film, il disait que en fait, le méchant n'était pas vraiment méchant et qu'il attirerait plutôt la sympathie du public plutôt que...
Mais franchement, le vrai méchant là-dedans, c'est le voisin.
Oui. Bah, il est quand même méchant, l'autre aussi. Il y a plein de méchants, en fait. Il est entouré de gens méchants.
Mais en fait, il n'y a pas de gentils dans cette histoire. C'est ça le...
C'est ça le problème aussi, oui. C'est que j'ai... ils sont tous cons. On est d'accord.
Et donc, Sinbad voulait vraiment faire le film, sauf qu'il a raté l'audition, parce qu'à ce moment-là, il était avec Hillary Clinton et Sheryl Crow, qui faisaient une tournée en Bosnie-Herzégovine.
C'est un chien.
Et finalement, Chris Columbus, il a quand même accepté de lui donner une deuxième chance. Il a attendu qu'il revienne pour lui faire passer une audition. Sinbad, il est sorti là, il a dit « Je vais tout foirer, c'est bon, j'aurai pas le rôle. » Et il a eu le rôle. Ce film est une suite de malentendus et de coïncidences. Hein, c'est ça.
Et à un moment donné, il ne faut pas forcer le destin.
Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et pour finir au niveau du cast, pour faire le rôle de Flanders, là, de Howard, à la base, ils avaient pensé à Tim Allen. Et puis finalement, non.
Bah, Tim Allen, en fait, le problème, c'est que... Est-ce que déjà à l'époque, ou c'était un peu avant, c'était en même temps quasiment, Tim Allen, il avait déjà le visage de celui qui était le Père Noël, en fait, avec Santa Claus.
Ouais.
Mais je vais vérifier l'année, parce que je pense qu'on n'est pas très loin, ou c'est un peu après, peut-être.
Je crois que c'était avant, en fait. Super Noël, je crois que c'est sorti en 95.
94.
Non, 94, ouais.
Bon.
Donc avant. Là, déjà, il y a eu le... Enfin, en gros, c'est le Père Noël. Et puis, surtout, après, niveau film de Noël, il en aura d'autres. Il a fait Christmas with Crank, c'est un Noël de folie, là, avec, je crois que c'est avec Matthew Broderick.
Il y a eu la suite de Super Noël. Ouais,
il y en a eu deux, hein.
Ouais.
T'as Super Papa, je crois que c'est ça, et puis t'as Super Noël.
Hyper Noël et Super Noël.
Ouais, Hyper Noël, c'est ça. Super Noël et Super Noël 3, que moi, ce sont des films que j'aime beaucoup, alors qu'ils sont... Les deux derniers sont quand même pas excellents, mais quand tu penses à Tim Allen, c'est... Juste après ça, c'est un peu compliqué, quoi, de le faire pour un méchant de Noël, alors que... Enfin, méchant.
Il y en a eu un autre en 2017 qui s'appelle El Camino Christmas. Mais alors là, ça, je sais pas ce que c'est.
Je sais pas du tout non plus. Bon, bref, voilà.
Bref, voilà, ça aurait pu être lui.
Puis bah, il y a les Toy Story aussi, non ?
Oui, bah oui, ça c'est dans ses voix, effectivement.
Au niveau du tournage, autre explication de pourquoi c'est pas bon, les dialogues. Et ben en fait, Sinbad a improvisé la majorité de ses répliques.
Ah, ça se voit pas.
Tout comme Schwarzy. Beaucoup d'improvisation. Donc,
ah, lui, par contre, quand il improvise, on a l'impression qu'il récite son texte quand même, Schwarzy.
Un peu. Mais il les a sur ses mains. Il a des notes sur ses mains et en fait, il improvise ce qu'il a noté rapidement. Non, mais par contre, je reviens sur le truc de Tim Allen et de Joe Pesci, mais... J'imagine Tim Allen dans le rôle de Schwarzy et Joe Pesci à la place de Sinbad. C'est pas mal, en fait.
Franchement, on est en truc, ouais. Là, pour le coup...
Là, toi, je... même si le film n'est pas excellent, on a des acteurs qui peuvent incarner ce genre de rôle, quoi.
Après, ouais. Enfin, oui et non, en fait. Parce que, si tu veux, je vois pas Tim Allen dans le final. Je vois Tim Allen sur les trois quarts du film, mais pas
ouais, c'est vrai.
Le final, quoi. Tu vois.
Ouais, non, au niveau musclé, effectivement, Tim Allen est...
Ouais, mais après, il y a le costume qui muscle.
Ouais, mais je vois ça, pas dans
ça peut être marrant, justement, d'avoir un acteur pas musclé qui, tout d'un coup, a le costume du mec musclé.
Mais justement, à la limite, ça serait peut-être encore mieux, parce que justement, on se dit, ah ben, je m'y attendais vraiment pas, à ce que ce soit
bah ouais, c'est
mon
ça.
Père qui était...
Ouais, parce que là, ils sont quand même très cons de pas le reconnaître, quoi. Enfin, il y a un moment donné où...
Kent.
Ouais, alors là c'est encore pire.
Chapeau, on ne le reconnaît plus.
Et après, à la limite, laisser Phil Hartman en tant que voisin creepy.
Oh bah lui, ouais, il fait le job. Hein. Bien, hein.
Il fait le job. C'est pas son meilleur rôle, mais il fait le job, quoi.
Alors, rappelez-vous du budget. Donc, sur 60 millions, il y a quand même un tiers qui est parti pour Schwarzy. Je vais vous dire où est passé le deuxième tiers. Là, bah, forcément, cette scène finale du défilé. ça a été filmé au studio Universal. Ils n'ont pas pu le faire en conditions réelles dans des vraies rues parce que problème de sécurité en fait. Là au moins ils étaient dans un environnement contrôlé. Et donc bah, déjà beaucoup de décors à créer. Tout a été filmé depuis des hélicoptères. Ça a fait 3 semaines de tournage juste pour cette scène finale. Il y avait 1500 figurants. Et donc la conception de 3 chars, hein, parce qu'évidemment, on ne voit que les 3 mêmes chars dans toute la scène.
Mais ils ont coûté très cher.
Ils ont coûté très cher. Bah, surtout qu'ils les ont un peu détruits, je pense, donc il fallait rafistoler.
Ouais.
Donc voilà, c'est pour ça que pour le reste, il ne restait plus grand-chose. Mais néanmoins, Schwarzy a dit qu'il avait bien apprécié le film, parce que ça lui rappelait sa vraie vie, parce que lui aussi s'était trouvé en galère de ne pas trouver de cadeau la veille de Noël.
Ouais, ça c'est des trucs de promo, ça.
Oui. Et que ça lui plaisait bien de, pour une fois, jouer un rôle d'humain ordinaire.
J'ai pas envie de faire le truc genre, t'es une superstar, t'es riche, tout ça, genre tu te retrouves en galère, tu veux pas trouver le truc. Alors déjà, je doute que c'est toi qui vas chercher le truc.
Eh ben, le scénario aurait été mieux si ça avait été son assistant qui devait trouver le jouet pour lui.
Celle au début, là, il never gonna make it.
Ouais, mais c'est ça. Il y a plein de façons de faire en sorte que le film devienne un film de Noël tout à fait potable et qui tienne la route. Et alors, par contre, dernier truc, justement, je reste vraiment sur Tim Allen parce que j'aime beaucoup cet acteur, bon, voilà. Peu importe ses idées politiques, j'aime beaucoup, mais en 2006, il était dans Zoom, l'Académie des super-héros, et il était le Captain Zoom, et c'est un super-héros, et ça marchait vraiment bien.
Bon.
Non, t'aimes pas ?
Écoute, on va réécrire le film, et puis voilà.
Voilà. Après...
J'ai pas vu Zoom parce que c'était pas exactement mon focus à l'époque, mais bon...
Puis bon, Galaxy Quest, il est quand même classe en...
Ouais. Oui. Fun fact. Même si Turbo Man, c'est à la base un produit fictif créé pour le film, le jouet auquel Myron fait référence dans le diner et qu'il a pas eu quand il était enfant. Donc si vous avez vu cette scène, c'est que vous avez vu la version longue. En fait, ce jouet, c'est un vrai jouet et dans la vraie vie, il s'appelle le pistolet Johnny Seven OMA pour One Man Army. Parce que, comme il dit, il avait 7 fonctions différentes et ça a été produit par Deluxe Reading sous la gamme des jouets Topper Toys. C'est sorti en 64. C'est devenu le jouet pour garçons le plus vendu cette année-là. Beaucoup de pubs à la télé, enfin, c'était vraiment un gros phénomène. Et ce qu'il décrit, donc la publicité, c'est la vraie pub, hein, c'est de la vraie vie. Depuis, bah, le jouet, forcément, est plus fabriqué, c'est devenu un objet de collection et il se vend très très cher. Évidemment, parce que c'est Hollywood, Turbo Man est vraiment sorti en jouet pour la sortie du film. C'est devenu aussi un objet de collection. Alors, j'ai vérifié sur le eBay des requins. Vous pouvez l'acheter aux environs de $500 avec la boîte d'origine. Sauf que, si vous vous souvenez de la gueule du jouet dans le film, dans la vraie vie, il est moche. Il est pas beau.
Par contre, petite précision par rapport au Johnny Seven.
Ouais.
Là, Turbo Man, c'est une figurine, c'est une poupée.
Oui.
Johnny Seven, c'était juste un flingue. Hein.
Oui, c'est un flingue.
Toi, c'est même
mais
pas
il fait 7 trucs différents.
Oui, d'accord, mais toi, c'était même pas genre les espèces d'Action Man ou de G.I. Joe à l'ancienne, très très gros.
C'était un lance-grenade qui fait mitraillette.
Ah ouais, c'est ça. Lance-grenade, mitraillette, puis il y a une roquette en dessous. Enfin, c'est...
Il fait tout.
C'est le truc que tu prends quand t'en as marre dans GoldenEye sur GameCube, quand tu fais tout le monde.
Non, dans GoldenEye sur GameCube, sur 64.
Sur 64. Non, c'est sur GameCube.
Non, 64. Sur certains. Sur certains. Eh oui. C'est plus vieux que ça encore. Non, tu mettais des mines de proximité sur la porte des toilettes. Dans le Facility. Comme ça, quand les portes s'ouvraient, boum. Ils sont en train de chercher. C'est sur 64, c'est pas sur
GameCube. En plus, j'y ai rejoué il y a pas très longtemps, c'est impossible à jouer maintenant. C'est trop dur.
Non, non, mais je confonds avec l'autre James Bond qui est sur.
Ouais, sans doute.
Qui est sur GameCube.
Oui, oui, là, il y en a eu pas mal, mais GoldenEye.
Ou à un moment donné, t'as un bazooka qui lance plein de trucs.
Ouais, c'était lequel? C'était avec Pierce Brosnan dedans, justement, encore, je pense.
Comment il s'appelait?
Je te laissais chercher.
Ouais.
Voilà. Alors, comment sans doute le costume rouge de Turboman a été inspiré je fais un AVC à
Portuman aussi qui est appelé dans.
Donc inspiré par The Flash, hein, c'est pas une grosse surprise. Autre fun fact, et vraiment je comprends pas qu'il l'ait laissé parce qu'on le voit en gros plan. Quand au début, Schwarzy est dans son bureau, qui prend des appels et il signe un contrat, il signe Arnold Schwarzenegger en fait sur le contrat. Et vraiment, il y a un insert, c'est un gros plan. On le voit qui signe Arnold Schwarzenegger.
Et on l'aime bien, mais il est un peu neuneux quand même.
Il est gentil, mais il est un peu concon, hein.
Alors, par rapport à ce que tu disais, Olivier, il y a eu effectivement un GoldenEye, mais c'est au service du mal et c'est pas celui dont on parlait.
D'accord.
Voilà. Il y a eu un petit, mais lui, par contre, il n'a pas eu de succès escompté. Donc, c'est pas possible, mais c'est pas le même.
Petit lien que pour faire un lien avec Schwarzy, dans la scène où Howard rentre chez lui en dépanneuse, la chauffeur qui lui dit de montrer un peu d'émotion dans son histoire, c'est Marianne Mueller-Ley, je sais pas comment ça se dit, Mueller-Ley, ouais, qui jouait la mauvaise Sarah Connor dans Terminator. Tout est lié, c'est le même univers.
Est-ce qu'il y a vraiment une bonne Sarah Connor?
On ne le saura jamais.
Voilà, je lance la question. Je vais me faire des amis.
Tu vas avoir des gens qui vont t'écrire des paragraphes de 30 pages.
Faites-le.
Les théories.
Il n'y a pas de souci.
Dernier petit fun fact, à la base, Turboman, il devait s'appeler Turbotom. Voilà, je sais.
Ouais, sauf que
ils ont bien fait de le changer.
Turbotom, ça fait quand même
Bottom. C'est comme les mignons. Bottom.
C'est ça.
C'est
turcu, quoi. Comme le podcast, là, retour vers le turcu.
Retour vers le turcu, exactement.
Ah, merde, je me déçois moi-même de ne pas l'avoir vu.
T'as un turbotom, moi j'entends bottom.
Ah ouais.
Moi, je suis, voilà, dans ma tête, je suis un mignon, quoi.
Bottom.
Banana. Oh, la chaleur, ça fait du mal.
Oh, oui. Alors, la sortie du film, la première mondiale, elle a eu lieu donc le 16 novembre 1996 au Mall of America à Bloomington, où le film a été en partie tourné, on le voit bien. Ouais. Donc, ils ont fait toute une journée événement pour célébrer la sortie du film. Et comme c'est la tradition, Schwarzy a fait don de souvenirs du film au Planet Hollywood du centre commercial. Je pense qu'ils savaient
que le film était pas cool, donc ils ont fait une première dans un centre commercial plutôt que faire une première de gala à Hollywood même, quoi.
Et ils ont passé ça pour du marketing. Ils sont forts, ils sont très forts.
Ah oui, ils sont super forts.
Et parlant marketing, donc comme on l'a dit précédemment, le film a fait un bide. Premier week-end de sortie, il était quatrième derrière Star Trek, First Contact, Space Jam et Ransom. Donc
même derrière Space Jam.
Ouais.
Ah ouais, là quand même, assez fort.
Ouais.
Jam, il y a Bill Murray, quoi.
Ransom, c'était la rançon. La rançon, c'est avec qui? C'est Mel Gibson.
C'est Mel Gibson, ouais.
D'accord.
Ouais, mais il était pas mal ce film d'ailleurs.
Ouais, c'était bien.
Ouais. Donc la critique qui revient le plus souvent, c'est que le film est le cul entre deux chaises, parce que d'un côté, ça se veut être
le turbotom.
Évidemment.
Il a le cul entre deux chaises.
Le turbotom coincé.
D'un côté, c'est une...
Je vais te donner le titre du podcast, Frédéric, par ailleurs.
Ah, je l'ai, là.
C'est un festival.
C'est le podcast du turcu, quoi.
Oh là. Bon, on va y arriver. Donc d'un côté, ça se veut être une satire qui dénonce le matérialisme, et de l'autre, c'est un slapstick un peu ridicule. Les critiques soulignent aussi que le scénario, est vide, il n'y a rien. et que, ça, que de toute façon, ils auraient pu donner le meilleur d'eux-mêmes. Le scénario leur laissait pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre parce que bah, quand il y a rien, il y a rien. Quoi. On peut pas non plus faire des miracles.
Et ce qui se vérifie avec le personnage de Phil Hartman.
Voilà. Et que, en fait, j'ai lu certains critiques qui reprochaient. Enfin, qui rejetait la faute sur Levant, alors que le pauvre, il a fait ce qu'il a pu, parce que, soi-disant, il était surtout habitué à faire de la sitcom jusque-là et qu'il n'aurait pas le bagage nécessaire pour faire le film. Bon, moi, je ne suis pas d'accord, mais...
Moi, voilà, je suis tout à fait d'accord. Je pense que Levant, il est en chien, référence à Beethoven. Oh.
Ouais, enfin, il est habitué, c'est ça. Effectivement, il est habitué à faire des sitcoms. Alors déjà, il a fait Marier deux enfants, donc on a fait pire comme sitcom. Il a fait Beethoven, il a fait Junior le Terrible. Enfin, il a aussi fait des trucs comédie familiale qui ont bien marché, surtout Beethoven. Faut peut-être arrêter de se moquer du monde, quoi.
C'est ça. Hein. Bon, au final, on relève surtout que le scénario est plus cynique que satirique et que les personnages sont mal écrits, qu'ils font des choix illogiques, que c'est vraiment pas la meilleure performance ni de Schwarzenegger ni de Sinbad. Bref, c'est ridicule.
Non, ça, c'est pas juste. Je sentais qu'il y avait une connerie derrière et j'ai cliqué quand même.
Toujours. Ils sont intenables. Alors, c'est bien parce que, en plus, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, ils comprennent pas.
Olivier, qui a partagé en privé une image des vidéos qui disent bottom.
Oh là là.
Si vous écoutez ce podcast en tant que premier podcast de mon ami Schwarzy, désolé.
En même temps, tu devrais t'excuser toutes les semaines. Hein.
C'est vrai.
Ah non, mais pas à ce point-là.
Bref, j'enchaîne. Alors, niveau money. Comme on a dit, il devait à la base choisir faire la planète des singes. Et en fait, j'ai l'impression que le truc... Non, mais t'en rajoutes aussi. Bon, comme tout a l'air de s'être fait un peu à la dernière minute sans avoir rien prévu, enfin bref, le bordel, Schwarzy a signé pour le film qu'en février et le film a été tourné très rapidement. Ils ont eu que 6 mois et demi pour bosser le merch alors qu'il faut compter normalement une bonne année. Du coup, ils ont limité les sorties du merch à une réplique de la figurine parlante, donc, qui à la base était vendue 25$. Voilà. Et ils ont fait un véhicule de Turboman. Voilà.
C'était pas encore très cher finalement, 25$ en fait.
Non, mais en même temps, quand tu vois la gueule de la figurine, tu
oui, non, c'est vrai, pas plus cher. J'ai pas regardé, effectivement.
Elle est horrible. Et en plus, je pense qu'ils ont un problème de conception parce que selon les. Enfin, elle n'a jamais la même couleur. Il n'y a rien qui va dans cette figurine, elle est horrible.
Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle autant de merchandising dans ce podcast. Hein. C'est impressionnant.
Oui, mais il y a une raison. Il y a une raison, c'est que du coup. En fait, ils n'ont pu faire aucune publicité, ils n'ont pas eu le temps. Et pourtant, malgré tout ça, il y a plusieurs critiques qui ont écrit que le film avait été fait que pour vendre les jouets. Sauf que, bah, du coup, non. Donc, Chris Columbus a rejeté l'idée. Il a déclaré que, de toute façon, ils avaient juste sorti 200 000 jouets Turboman, que, de toute façon, ce n'était pas une affaire rentable. Et que, merde, de toute façon, les autres ont fait pire, puisque la même année, il y a eu Space Jam qui s'est pas gêné à sortir full de merch, et la même année, il y avait aussi les 101 Dalmatiens. Alors, Disney, c'est quand même l'ironie.
la fameuse technique du... les autres, ils ont fait pire. Ça marche.
C'est ça. Mais pour le coup, oui, on pouvait pas vraiment les accuser d'avoir sorti ce film uniquement pour sortir des jouets, parce que, de toute façon, ils n'ont pas vraiment fait.
Ouais.
Néanmoins, malgré tout le mal qu'on dit de ce film, et je valide le turpopotin, le film a reçu quelques récompenses.
Ah ouais ?
Oui. Alors, Sinbad a reçu le Blockbuster Entertainment Award, jamais entendu parler, du meilleur second rôle dans un film familial. Et ah ouais. Schwarzy a reçu le Golden Camera Award, on en avait déjà parlé, c'est un truc allemand, voilà, du meilleur acteur international, mais surtout, accrochez-vous à vos slips, le film a été nommé, alors juste nommé, hein, il n'a rien gagné, à plusieurs reprises pour les Stinkers Bad Movie Award, il a été nommé pour le Most Painfully Unfunny Comedy Award, nommé pire acteur pour Schwarzy, et pire second rôle féminin pour Rita Wilson. Et il a été nommé au Golden Raspberry Award pour le pire, pour le pire réalisateur pour Brian Levin.
Ah ouais.
Et dire à un moment dans ta carrière, être nommé pour le pire truc, c'est quand même une satisfaction.
En fait, oui. c'est pas les Razzies, c'est encore autre chose.
Non, c'est pas ceux-là.
T'es sûr que c'est pas les Razzies, les Golden Raspberry?
Golden Raspberry, ça, je pense que c'est...
Ah, peut-être.
Non, je crois que c'est ça, les Golden Raspberry, c'est les Razzies. Hein.
C'est possible. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est très sympa que Brian Levant il a été nommé ou il a gagné le Razzie Award?
Il a juste été nommé.
Mais c'est sympa d'être nommé puisque, en fait, ce que j'ai lu sur le film, c'est que Chris Columbus, qui est le producteur, en fait, a été, vu le temps limite de la préparation et du tournage du film, a été très, 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 très impliqué dans la post-production du film et notamment dans les projections test. Il y a eu des projections tests qui sont faites et donc à chaque fois, ce qui explique en fait le fait pour que les scènes de slapstick qui sont au nombre d'un milliard dans le film vont aussi loin qu'elles vont parce que à chaque fois en fait il modifiait le film suivant donc les retours des projections tests et il l'a fait jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de la première. Mais c'était plus Chris Columbus qui était impliqué à donf sur le film que Brian Levant.
Ouais. Brian Levant, en gros, c'est ça.
Donc en fait, que Columbus, ça sera solo pour le job et c'est Brian Levant qui se retrouve.
C'est ça. Alors pour finir, comme on l'a dit, en fait, le film a connu plusieurs versions, mais notamment, donc nous, on a vu la version longue parce que je pense qu'on peut trouver que celle-là maintenant. La version courte doit plus être trouvable. Et donc comme on disait, donc déjà la version longue fait 1h30, donc la version courte, elle devait faire. Je sais même pas si elle faisait 1h15, hein. Franchement, avec tout ce qu'ils ont rajouté, je sais pas. Parce que donc la version courte, elle a été sortie uniquement pour la sortie ciné. Et dès la sortie VHS, c'était la version longue. Donc,
c'est étrange quand même.
C'est très étrange. Mais vraiment, de tout ce que j'ai pu voir, j'avais l'impression qu'ils ont sorti un produit pas fini. En fait, ils ont été pris par le temps et vas-y, on enfourne, mais parce qu'il faut, quoi. Par exemple, dans toutes les scènes qui ont été rajoutées, donc la scène finale où sa femme lui demande ce qu'il lui a pris pour Noël, elle a été rajoutée et à la base elle était rajoutée en button scene, donc après le générique. Moi, dans la version que j'ai, je pense que vous c'est la même, mais elle est avant le générique, enfin ouais. C'est la dernière scène. Et celle-là, ils l'ont rajoutée pour se créer une ouverture en cas de suite. Voilà, ils y croyaient. La scène a été rajoutée aussi, la scène au début où il cherche la femme en fourrure qui a acheté le dernier jouet, qui trouve celle qui le drague et il essaye de lui racheter le jouet, ça y était pas au début. La scène dans le diner avec Myron où il décrit son jouet, tout ça, ça y était pas non plus. Et je vous fais pas toute la liste, mais il y a vraiment plein de scènes comme ça et qui sont plutôt importante dans le film, finalement. C'est pas des scènes anecdotiques ou juste un gag qui a été rajouté.
Parce que après. La scène dans le diner, même s'il est improvisé, peu importe, ça peut expliquer aussi pourquoi Myron est comme ça, en fait.
Oui.
C'est pas inintéressant, mais après, de là à dire que c'est indispensable.
C'est ça. Et donc, on parlait de suite. Donc, comme tu l'as dit, il y a une suite du film qui est bien sortie, mais en direct ou DVD en 2014. Ouais. Ça a été réalisé par Alex Zam. Le film n'a absolument aucun lien avec le premier, à part que c'est la même histoire. En fait, c'est une réécriture. Et donc, dans les rôles principaux, on a qui ? On a Larry the Cable Guy et Santino Marella. Ouais. Voilà ! Voilà, voilà !
Qui est Santino Marella,
c'est un ancien catcheur, voilà.
Bah voilà, il y a eu Big Show dans le premier, bon voilà.
Oui.
Voilà, tu cherches encore du côté des catcheurs.
Oui.
On n'est jamais déçu par les catcheurs.
Non, ouais. Ça c'est sûr.
Regardez The Rock.
Ah. Il y a des trucs, hein, parce que voilà, hein, Dwayne Johnson a... Il y a des trucs qui sont très très discutables, mais il y en a des trucs quand même très 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 bons. Hein.
Mm-hmm.
Bah, t'as pas regardé Young Rock, tu peux pas dire ça. et puis dans Vaiana, il chante très bien.
Ah, ça, j'avoue, je n'ai pas encore entendu ses talents de chanteur.
Il chante très bien. Il chante effectivement très bien.
Et il a une très très belle voix, effectivement. Bah, après, quand on connaît un peu son histoire, il a toujours été un peu bercé là-dedans, notamment via sa mère. Donc. Mais il a des talents plus ou moins cachés, quoi. C'est tout ce que tu avais à dire ?
Oui, c'est mon dernier mot.
Voilà, donc on peut arrêter, on peut donner directement une note, non?
Mais j'avais quand même un ou deux trucs à dire pour dire à quel point. Justement, pour dire à quel point c'était de la merde, mais le truc, c'est que moi, je suis un vrai client de slapstick. Donc vraiment, le fait qu'ils en aient fait des caisses, ça me... Le problème avec ce film, c'est que pour moi, le personnage de Schwarzenegger est mais antipathique du début à la fin, quoi.
C'est ça.
Donc, tu n'arrives pas à te prendre d'affection pour lui. Tu te dis, bon, à ce moment-là, cette espèce de rivalité entre père et tout, faut vraiment que ça cesse. Et le truc, c'est que les scènes de meublage sont vraiment, enfin c'est ça, sont vraiment nuls à chier. C'est-à-dire que l'espèce d'atelier clandestin des Papa Noël, je sais pas quel script doctor a exactement formulé ça et tout, mais en fait ils y vont à donf et ça décolle jamais, ça n'est jamais drôle en fait. Et déjà le film déjà a beaucoup de mal
la scène elle est drôle mais pas fait exprès quoi. Enfin c'est il y a un moment donné où moi je me suis dit mais c'est quoi cette scène quoi. C'est absolument n'importe quoi.
Oui, mais elle apporte absolument rien.
Ah non mais elle apporte rien et puis
elle a aucune conséquence.
Ah non mais puis la scène elle est débile quoi. Enfin,
c'est un peu le souci aussi avec tout le film, c'est que ouais, le côté slapstick, j'aime beaucoup ça aussi, mais c'est que déjà, bon voilà, effectivement, quand tu disais le personnage principal, tu t'en fous de ce qui lui arrive, limite, t'es en train de te dire, mais c'est bien fait pour toi, en fait, tu l'as cherché, et puis surtout, en fait, tout ce qui lui arrive, il n'y a aucune conséquence, mais rien.
Non, oui, c'est ça. Y a même pas une histoire de rédemption en fait, il comprend pas.
Donc à la fin, non mais en même temps, à la fin quand il se transforme, à la fin quand il se transforme en véritable super-héros avec un jetpack et tout, tu te dis bon, enfin moi j'avais totalement décroché du film quoi. Donc tu vois même le fait que pour moi tonalement cette espèce de gros final hollywoodien, pour moi ça a pas forcé. Pour moi, ça n'a pas forcément sa place. Enfin, si tu veux que tu regardes un film qui s'appelle La course aux jouets, c'est pas un truc que tu vois forcément arriver avec un immense final spectaculaire et tout. Et le seul truc auquel j'ai pensé que je trouvais marrant, c'est que l'effaceur, la scène en fait, donc où il est dans les airs, en fait, a des effets spéciaux qui sont plus crédibles. Et c'est là où tu vois que l'effaceur a eu un budget effets spéciaux et un temps de préparation beaucoup beaucoup plus. Parce que là, quand il est dans les airs avec son jetpack et tout, tu le vois qu'il est sur fond bleu et c'est un truc où c'est vraiment moche à voir. Et c'est d'autant plus moche à voir qu'on parle d'un film de 96 où tu avais déjà un certain progrès en termes d'effets visuels.
Bah oui, quand même. Et puis quand il décolle vers la caméra dans le ciel, ça fait un peu genre Bip Bip et Coyote, mais en très 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 mauvais aussi. Enfin, il y a un tas de choses qui ne vont pas. Et moi vraiment là-dedans, ce qui me dérange le plus, c'est vraiment ce manque de conséquences à tout ce qui lui arrive. Quoi.
Juste sur l'histoire du jetpack, par exemple le film Rocketeer. Date de 91, il est 100 fois mieux réalisé sur
ce point. Clairement.
Et parce qu'aussi, c'est réalisé par un ancien de Ilem en la personne de Joe Johnston. Donc, il savait comment préparer ça.
Et encore maintenant, tu le regardes, il est disponible sur Disney+. C'est bluffant. Hein, la copie, elle est nickel.
Ouais, c'est
franchement,
je l'ai aussi découvert il avait été disponible en Blu-ray quelques années avant que Disney+ arrive. Et c'est vrai que la copie HD est vraiment bluffante. Je suis d'accord avec toi.
Mais moi, il y a un truc aussi, c'est quand tu parles par rapport au final très hollywoodien, tout ça. Le pire, tu disais aussi, Elodie, qu'il voilà, n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de j'apprends de mes erreurs, sous le côté j'ai beaucoup trop travaillé, etc. Un peu comme il y a dans Santa Claus, hein, Super Noël. Super Noël, c'est un peu ça, c'est voilà, le gars, il a trop travaillé, machin, il se rend compte qu'il perd son gosse. Mais là, le truc, c'est sa fin, c'est je me suis rendu compte que je vous aimais.
Oui, mais en fait, le retournement, il sort de nulle part, en fait. Et en fait, c'est ça que, en fait, moi, je reproche un peu au film. C'est-à-dire qu'il nous montre hein, une société de consommation il y a même des émeutes consuméristes totalement. Et même dans le... Tout est extrême. C'est-à-dire que les réactions des gens vis-à-vis du jouet sont extrêmes. La manière de travailler du Schwarzy, elle est extrême. Tout est extrême. Et en fait, finalement, tout ça... Le film justifie tout ça, quoi. Au lieu de le dénoncer, il le justifie parce que effectivement, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de, il se regarde. Oui. C'est des personnages qui regardent, qui se regardent pas, et donc finalement, on trouve ça normal que des gens se battent pour acheter un jouet, quoi. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement agaçant de ce point de vue-là.
Ouais, surtout pour un film qui se disait à la base dénonciateur de la société de consommation et qui au final...
Il fait l'inverse, c'est ça le truc. Et en fait, c'est marrant parce que je trouve que un film comme Maman, j'ai raté l'avion qui date de 4 ans avant et le deuxième de 2 ans avant... joue beaucoup plus avec les codes se moque beaucoup plus des codes des US de Noël et tout, et du coup le film et de la consommation vraiment ça se moque beaucoup plus des choses, c'est beaucoup plus subversif, non, mais c'est un peu plus méchant, et du coup ça rend le film beaucoup plus sympathique, quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs, si on compare, parce que là on parle des personnages qui sont antipathiques, mais si on compare les deux films, t'as un film où t'as un personnage qui est, où t'as un gamin qui est absolument sympa, auquel on s'attache tout de suite, qui est brimé par ses frères et sœurs, donc du coup il y a un sentiment d'empathie, et en plus on découvre que ce gamin-là, il a de la malice, il a de la roublardise, il arrive à tenir tête à des, et du coup. Forcément, on a envie que ce gamin il s'en sorte, on a envie de l'aider, on a envie d'être avec lui et tout. Alors que là, dans le film, le gamin il est juste insupportable, quoi. Pour ceux qui, c'est Jake Lloyd qui le joue. Pour ceux qui, c'est celui qui jouait Anakin Skywalker jeune dans La Menace Fantôme. Enfin, je veux dire, le gamin il a une tête à claque, il passe vraiment pour le gamin gâté, insupportable et tout. Et en fait. C'est lui qui a raison on lui donne raison tout le temps. Alors que nous, derrière notre écran, on n'a qu'une envie, c'est de lui foutre deux baffes et lui dire ta gueule, arrête de nous faire chier avec ta putain de figurine de merde. Donc, alors que 4 ans avant, parce que mine de rien, on sent que la course aux jouets, ça va être un peu l'héritage de Home Alone, quoi. C'est vraiment le film de Noël avec les gamins, avec les rebondissements, les trucs du slapstick dans tous les sens et tout. Donc on sent vraiment qu'il y a une filiation entre les deux films. Sauf qu'il y en a un qui rend les choses sympathiques, l'autre qui rend les choses pas du tout sympathiques, quoi.
Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et puis de toute façon, des films, tu dis filiation, mais des films de Noël. Familiaux dans ces années-là, il y en a eu pas mal, et on en a déjà cité comme énormément, et celui-là, il a rien compris au film de Noël. Le seul truc qu'il aurait pu comprendre au film de Noël, c'est dans ses choix de musique, mais en allant chercher des trucs évidents. Dans tous ses choix de musique de Noël, etc., il va chercher dans le côté pop de Noël, de la musique de Noël, mais il y a c'est des trucs évidents. Alors, si t'aimes bien ce genre-là, ça fait plaisir, mais au final, tu te dis, mais en fait, ça colle pas. Ça va pas. Tu vois, c'est genre, on a respecté un cahier des charges, quoi.
Ça pourrait être du Tony Bennett, et c'est du Tony Bennett.
Exactement. Exactement. Non, c'est... Il y a plein de choses qui posent problème, et...
Il y a même des scènes qui sont très, très malaisantes, quoi. Franchement. Non, mais... C'est...
Mais je pense qu'il y a un maximum dans la production de ce film et tout, où je pense pas qu'il y a eu énormément de réécriture. Je pense que tout ce que tu vois dans le résultat final, c'est des décisions qui ont été prises dans l'urgence. Et comme disait Frédéric, le fait qu'il n'y a pas de véritables conséquences à tout ce qui peut arriver au personnage, je pense que ça vient du fait que Schwarzy veut son film de Noël et que les familles passent un bon moment en fait en train de le voir se faire péter la gueule par des consommateurs avides dans un supermarché. Donc c'est des trucs où c'est ça, c'est un enchaînement de scénettes où Schwarzy l'a fait parce qu'il pensait que ça serait fun, mais en fait ça fait pas un film.
Non, ça fait pas du tout un film, et encore moins un film de Noël, parce que dans ce genre de film, surtout les films familiaux de Noël, t'as toujours un côté pas moralisateur, mais t'as comme ils font souvent le petit côté, la morale de la, à la fin, toi, là, il y a, en fait, tout ça nous a amené à, t'as couru pendant toute la journée pour essayer de trouver un jouet, t'as pas réussi, t'as même voulu en voler un. Tout ce que je, enfin, tout ce que je vois là-dedans, c'est qu'en fait, t'es un connard fini qui...
C'est ça.
Qui pense que tout lui est dû, quoi.
Mais finalement, c'est juste le gamin, lui, qui va avoir une évolution.
Et finalement, tu trouves... Ouais, bah, c'est ça, le gamin...
Le problème, c'est que son évolution, le gamin, elle est à la fin, dans les deux dernières minutes. Enfin, c'est vraiment...
Oui, parce que finalement, on ne voit pas tellement
tout, quoi.
Tout d'un coup, il a une épiphanie. Ah bah tiens, non, je vais lui donner. Alors que, enfin, il n'y a aucune justification à ça. Il ne le connaît pas, le mec, il est fou. Enfin,
ça tient pas et...
Puis de toute façon, le mec, il va aller en taule, il va pas faire un cadeau à son gosse. Hein.
Non plus. C'est, enfin, il y a rien qui tient. Il y a le fil rouge, il est nulle part. Le seul fil rouge, c'est vraiment ça. C'est, il a fait toutes les conneries du monde. Il aurait pu se faire arrêter, mais genre plusieurs fois. D'ailleurs, il se fait arrêter, mais il est ressorti quasiment automatiquement parce que pourquoi ? Parce qu'il a de l'argent à tous les coups. Hein. Donc j'ai de l'argent, je sors comme je veux. Et même il s'excuse devant le flic de l'avoir brûlé, de l'avoir fait ça, plein de choses. Le flic, il dit, oh, bah, en gros, il dit rien parce qu'il est déguisé en super-héros. Donc finalement, il s'en sort en tant que héros dans tout un truc où en fait, finalement, c'en est pas un du tout. Quoi. C'est,
en plus, il s'excuse du fait que le policier il s'est pris un bus alors qu'il l'a pas vu se prendre un bus. Il sait pas.
Oui, en plus, ouais, c'est vrai.
C'est parce qu'il est super-héros, il sait tout.
Ouais, mais non, mais enfin. Dans ces années-là, je suis désolé, niveau film de Noël, il y a tellement mieux et tellement... même si tu veux faire un film de Noël, tu respectes un peu le vrai cahier des charges, quoi. Il y a un cahier des charges des films de Noël familiaux américains qui est bien connu. Après, il y en a quelques-uns qui s'en sortent avec des petites originalités qui font qui sortent la tête de tout ça. Mais lui... Il n'y a rien qui va, quoi. Même son affiche, ça ne va pas, quoi.
Elle est horrible.
L'affiche, elle est horrible. Voilà. Puis, enfin, non, c'est... C'est...
C'est un accident industriel.
Ah, ouais. Ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est... Et il n'en devient même pas sympathique, toi. Il y a des moments qui sont rigolos parce qu'il y a des cascades, tout ça, et encore rigolo. Mais toi, c'est même pas le mauvais film sympathique, quoi.
Non, tu peux même pas le regarder comme tu regarderais un nanar pour te moquer un peu. C'est que là, ça en devient juste gênant, quoi.
Ouais.
En fait, souvent, on rigole du nanar parce que le film n'a pas eu les moyens de ses ambitions. Mais là, en fait, le problème, c'est que le film n'avait aucune ambition dès le départ. Donc.
Si ce n'est que d'essayer de remplir une case à Noël avec quelques acteurs connus, et dont une tête d'affiche surtout, et puis c'est tout, quoi.
Ouais. Bah, qui est là par hasard d'ailleurs, hein, de toute façon. De toute façon, ce film s'est fait sur du hasard.
Ça, qui en plus de ça est là par hasard. Donc c'est. Enfin. Il n'y a rien qui va, quoi. Quelque chose à ajouter, Olivier ?
Non.
Non. Florian ?
Baisser au niveau de l'armure et de la dent, enfin de la. Enfin, l'armure grandeur nature, c'est nos amis de KNB qui ont fait. Qui est donc spécialiste dans le maquillage et les effets spéciaux, qui ont fait cette splendide armure pour le final. Donc voilà. Donc il y avait. Le truc, c'est ça, c'est qu'il y avait, il y avait des moyens. Qui ont été donnés à des bonnes personnes. Le truc, c'est que bon, c'est un résultat assez navrant, quoi.
Ouais. C'est ça, et des moyens qui ont été un peu mis trop dans certaines parties et pas assez dans d'autres. Et puis même des moyens techniques ou des moyens de montage, comme tu disais, voilà, Chris Columbus qui est passé derrière. Je me dis, ouais, peut-être que ça explique pas mal de choses, quoi. Enfin bref. Bon, je pense qu'on va lui réserver un sort en mode hareng. Alors, dans la liste, je mets dernier, hein.
Peut-être pas dernier quand même, hein. Je vous rappelle qu'on a les Conan.
Il y a Hercule et New York aussi.
Ouais. Wow. Bah, pour rappeler la liste, donc, du premier au dernier, le premier, donc, Last Action Hero, après on a Terminator 2, Total Recall, Jumeaux, Terminator 1, Flic à la maternelle, Predator, True Lies, Eraser, Stay Hungry, Junior, Rodil, Commando, Running Man, Cactus Jack, Red Heat, Conan le Destructeur, Le Barbare et Hercule à New York. que je pense qu'il se situe de toute façon dans la dernière
phase. À la limite, juste après Red Heat.
Oui. Oui, parce que Red Heat, c'était pas bon, mais c'était pas douloureux.
C'est non, ça. Moi, je le mets dernier. Hein. Je le mets dernier, je sais pas ce que
mais
c'est.
Mais, autres, en fait, mais... En fait, globalement, c'est vrai que...
Red Heat, il y a quoi en dessous de Red Heat?
Après, il y a les Conan.
Ah, après, il y a...
Okay. Ouais, mais quand même, Conan, même si j'ai souffert parce que c'est l'univers qui ne me va pas. Là, limite, non, moi, je pense que je vais faire comme Florian, je vais vraiment le mettre dernier parce que moi, je suis quelqu'un qui est très friand de films de Noël, justement, de tout ça. Et là, c'est une insulte au genre, donc...
Ouais, moi, juste avant Hercule in New York ou après, je m'en fous.
Moi, j'avais ouais. juste, pour le défendre, c'est qu'il dure moins longtemps que les Conan.
Ouais.
Ouais, mais parce que...
C'est vraiment le seul truc qui est différent.
Ouais, mais moi, j'ai fait une sieste pendant, donc en fait, moi, c'est comme si...
T'as vu si autant.
On a beau dire tout ce qu'on veut sur les Conan, il y a quand même une construction qui est derrière, il y a...
Oui, il y a un film.
Il y a une écriture, il y a un film. Après, bon, voilà, c'est, on accroche pas, c'est le bon ou pas. Là, c'est difficilement défendable. Il n'y a rien que tu peux ressortir de ça.
Eh ben, c'est fou, hein, mais je ne pensais pas que le fond du classement allait changer. Mais bah, jingle all the way down.
Ouh, ça peut encore changer même. Hein.
Ouais, c'est ça. On a encore des trucs genre la fin des temps, l'aube du sixième jour, dommage
collatéral. La fin des temps, c'est bien.
Ouais, mais toi, là, on va être sur une pente où il n'y en a pas beaucoup que j'ai vu quand même. Hein, donc.
Si, moi là-dedans, il y a pas mal que j'ai vu. Après, c'est vrai qu'après les Expendables 3, peut-être même après le 2, c'est vrai que ça devient un peu plus flou. Parce que le 1, Expendables, c'est... Bref, voilà. Donc, dernier...
Théoriquement, on n'est pas censé faire le premier Expendables puisqu'il apparaît qu'à la fin.
C'est vrai. Théoriquement, on peut zapper celui-là.
On peut aller directement en deux. Ouais. C'est ça.
C'est vrai qu'il est pas crédité, effectivement. Je regarde. Donc, il y a Batman et Robin, ça sera le prochain, La fin des temps. À l'aube du sixième jour, Dommage collatéral. Après, c'est Une voix. Terminator 3. Aïe. Là, c'est un patron de bar, il est pas crédité. Ça, c'est Une voix.
Non, après, il reprend The Last Stand, je crois.
Dans le Tour du Monde en 80 jours, non ?
Non, ça c'est un caméo. Je crois qu'il reprend avec The Last Stand, hein, je crois.
Ah ouais, dans le dernier rempart ? Non, dans Expendables 2.
Oui, il fait Expendables
2. Expendables 2, et puis après le dernier rempart, donc The Last Stand.
Voilà.
Ouais. Donc en fait, après Dommage collatéral, Terminator 3, on a un...
Il fait la pause gouverneur.
Ouais, on a un trou, il fait des petites apparitions, et puis ça fait Terminator 3, Expendables 2. Et c'est vrai qu'en plus de ça, Expendables, tu peux regarder le 2 sans avoir vu le 1, ça ne change pas grand-chose. On aura la joie de voir Van Damme en méchant, en plus. Et ça, c'est cool. D'autant plus que Van Damme va revenir sur Netflix fin juillet pour le dernier... comment ça s'appelle ? Dernier missionnaire, un truc comme ça, avec Eric Dor.
C'est ça, et qui a dans le trailer vient d'arriver aujourd'hui.
Ouais.
Ah, faut que j'aille voir ça.
Il y a quelques heures.
Mais... Bon, ça, je ne dirai rien. JCVD sur Amazon Prime. Puis bon, j'aime bien pas mal de ses films aussi, mais peut-être qu'on pourra avoir quelque chose de bien. Mais bon, Patrick Timsit, ça me fait peur quand même.
Faut pas déconner. Ça, c'est improbable.
C'est assez improbable. Voilà. Bon. Donc,
il y avait un siège dans ce film, et donc du coup, Patrick Timsit. Hein.
Ah là là, ce podcast du Turcu. Allez, on va terminer sur ces bonnes paroles. Merci à vous trois d'avoir subi ce film de Noël en plein mois de juin. Ah là là. Allez, ensuite, on a du Monsieur Série and Friends. Ça ira, surtout que je vais pouvoir parler d'une vieille série qui s'appelle Street Fighter, The Assassin's Fist, parce que c'est magnifique. Toi, ça, c'est genre de nanar, toi, ils n'ont pas eu les moyens. Et ça reste sympathique. Et on terminera avec... je pense qu'on terminera même le mois, si tout va bien, avec le... Y a-t-il un flic pour sauver le président ?
Oui.
Et ça, ça...
Ça s'envoie du bien.
Effectivement, effectivement. On approche de la fin des As canoniques. Hein.
Ouais.
Déjà, de toute façon, après celui-là, je pense qu'on n'est plus vraiment dans du Zaz à 100%, donc comme on l'avait dit la dernière fois, mais
ouais.
on approche. Allez, merci de nous avoir écoutés, d'avoir subi tout ça, vous êtes dans le turcu grâce à nous maintenant. Allez.
Joyeux Noël, là.
Turbotum et Joyeux Noël. Hein. Oui.